RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
François, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu ?
Bien, malgré ce froid.
Oui, il fait pas froid, c'est l'été indien.
C'est ça.
Non.
Ah, c'est bientôt l'hiver.
Ça fait du bien, les montagnes sont blanches, donc voilà, on s'approche de Noël, ça donne une petite atmosphère propice.
Exact.
Reprise de l'ITV Calvez après ses émissions spéciales confinement. On avait essayé de prendre le pouls et le ressenti des acteurs socio-économiques de notre ville. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Biancogne, figure calvaise, connue pour ses analyses pertinentes, parfois piquantes sur notre société insulaire, et surtout pour son engagement local au niveau culturel. Dominique, tout d'abord, merci d'avoir accepté. Comment ça va ?
Ça va très bien, merci François.
Je ne vais pas m'empêcher de te poser la question. Effectivement, il y a eu une situation pandémique et sanitaire compliquée. Est-ce qu'on peut avoir ton petit ressenti sur ces deux confinements successifs ?
Ben, ils ont d'abord été extrêmement différents. Je pense que le premier a d'abord surpris tout le monde parce que c'était la première fois... Je pense qu'on vivait une situation de ce type. Je crois que, en fait, ce qui a été le plus difficile à vivre et ce qui reste le plus difficile à vivre, c'est l'incohérence des mesures prises qui font qu'on ne comprend pas très bien si la situation est si grave que ça. Sur la période du premier confinement, on a annoncé effectivement, on a vu des situations compliquées ici même en Corse. Je pense que lorsque que ce soit Gilles Simeoni, que ce soit Bianca Fazi mettaient les gens en garde, je pense qu'ils n'étaient pas du tout alarmistes. Ils étaient surtout conscients de la situation de nos hôpitaux. On a vu d'ailleurs des malades obligés de quitter la Corse, être transporté par bateau jusqu'à Marseille. Là, aujourd'hui, la situation semble quand même s'être stabilisée, du moins dans les hôpitaux. Donc, on a un peu de mal à évaluer la gravité de la situation. Et encore une fois, les mesures qui sont prises, où elles sont infantilisantes. Le discours du professeur Salomon sur les papis et mamies qui doivent manger dans la cuisine, mais qu'on pense bien à leur couper la moitié de la bûche.
Alors là...
Franchement, bon, je ne ferai pas plus de commentaires, je crois que ça suffit. Et le fait, par exemple, que des endroits... alors, évidemment, on dira que c'est... Ça me concerne, je me sens concerné parce qu'il s'agit de culture, mais par exemple, très honnêtement, les librairies, ça fait des années qu'elles ferment par manque de clientèle. S'il y avait des gens qui se précipitaient dans les librairies, qui se battaient dans les rayons, on le saurait quand même.
Oui, ces incohérences d'ailleurs créent une certaine forme de gronde.
Complètement.
Puisque que ce soit sur les petits commerçants, avec ce terme surtout non essentiel, provoque une colère incroyable.
Tout à fait.
Nous, on l'a vu pendant les émissions du confinement, ce soit au niveau culturel, au niveau associatif pour les entités sportives. Il n'y avait pas d'aide, contrairement à certaines autres entités commerciales. Et surtout, pas de soutien, pas de communication, rien du tout. On prenait les informations comme elles venaient et il n'y avait pas de...
Complètement.
Alors, dans l'émission, on débute toujours par le calvi de l'enfance de l'invité. Donc, on va parler... Quels sont, là, de but en blanc, les premières choses qui te viennent à l'esprit si je te demande de me parler de ton enfance calvaise ?
Oula, mon enfance calvaise, maintenant, elle commence à remonter, à assez loin. Alors, moi, je me réclame comme étant une enfant de Cahiers, parce que c'était le quartier des pêcheurs, que mon père était pêcheur. Bien que je sois née sur le boulevard, en fait, je suis née dans la maison de mes grands-parents maternels, parce que à l'époque de ma naissance et sur de longues années ensuite, il y avait une tradition, les pêcheurs calvais pêchaient à l'extérieur de Calvi. Il n'y avait pas de pêche en haute mer. Par contre, ils pêchaient sur la côte jusqu'à assez loin. Et donc, au moment de ma naissance, mon père était sur ces lieux de pêche à Elbeau depuis quelques depuis quelques jours déjà, et ce sont les douaniers qui, en passant, lui ont dit « Ah tiens, au fait, tu as une fille qui est née. » Et donc, ma mère, pendant ce temps-là, avait trouvé refuge chez ses parents, mes grands-parents. Puis je suis retournée très vite à Cahill, évidemment. Donc voilà, mon lieu symbolique, ça reste Cahill, ou ce quartier qui était très peuplé et où il y avait une grande entraide entre les gens. L'entraide, non pas parce que les gens étaient mieux qu'ailleurs, mais c'était juste une entraide nécessaire à la vie sociale que nous menions à l'époque.
Oui, parce que le Cahill de l'époque, c'était pas le Cahill d'aujourd'hui.
Absolument pas. Ben, c'était par exemple une rue Clémenceau vivante du 1er janvier au 31 décembre, ce qui n'est plus du tout le cas. Donc tous les rez-de-chaussée étaient pour la plupart des locaux commerciaux, mais il y avait encore des gens qui habitaient en rez-de-chaussée. Hein. Donc de toute façon tous les locaux étaient ouverts, et ça veut dire que moi par exemple qui allais de Cahill ou à la place de l'église ou à la piazzette hein, où habitait ma grand-tante, je perdais 10 minutes parce qu'évidemment, il était hors de question de traverser la rue sans dire bonjour aux gens. Parce qu'autrement, la sanction à la maison risquait d'être terrible.
Alors, est-ce qu'il y a ce petit côté réac, c'était mieux avant ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça pas du tout. Je n'ai pas de nostalgie. Je considère, je suis très contente, vraiment, de l'enfance et de la jeunesse que j'ai eue. Pour moi, c'est une richesse, qui me nourrit encore aujourd'hui. Mais je n'ai pas cette nostalgie parce que très honnêtement, les conditions de vie étaient quand même plus difficiles. Moi, je me souviens de femmes pour lesquelles j'ai la plus grande, encore aujourd'hui, la plus grande admiration, qui allaient faire leur lessive au lavoir. Leur lessive et des fois celle des autres, qui avaient des mains comme de véritables battoirs, ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui. Et je ne cite que cet exemple. Il y avait des, quand même, il faut reconnaître que le progrès technique, ça a du bon, hein, quand même.
Sur les bancs de l'école, quel type d'élève tu étais ?
Alors, sur les bancs de l'école, j'étais une bonne élève. Voilà, j'étais une bonne élève, mais je ne vais pas dire que je n'avais aucun mérite, mais j'ai été fille unique, petite fille unique, nièce unique, etc., jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que ma sœur arrive. Et donc, j'avais autour de moi une bande nombreuse d'adultes qui s'occupaient beaucoup de moi. Et comme j'avais manifesté un petit intérêt assez rapide pour la chose écrite, ben ma mère assez naturellement m'avait aidé, non pas poussé, mais aidé. Elle répondait volontiers à toutes mes questions, ce qui fait que je suis arrivé au CP par exemple, je savais déjà lire. Voilà, donc j'ai été plutôt une bonne élève. Après au collège, j'ai été une élève, toujours bonne élève, mais rebelle quand même. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose à dire, je n'hésitais pas.
Bon, dans les faits, ça n'a pas nécessairement changé.
pas vraiment. Je n'hésitais pas à le dire. Voilà, et j'ai conservé mes souvenirs d'enfance. Je veux dire, la cour de l'école avec les trois belles ombres, ce qui nous permettait de développer des tas de jeux que les gosses ne peuvent plus avoir.
École séparée.
Aujourd'hui. Pardon ?
Garçon-fille.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que moi j'ai connu des classes mixtes. Non, j'ai pas été cantonné dans l'école des filles et tout le temps, quoi, je dirais.
D'accord.
En tout cas.
Ensuite, fin de troisième, il y a un choix qui s'effectue.
Alors,
il y a
à l'époque. Il y a un choix qui s'effectue. C'est-à-dire qu'à mon époque, il y avait encore. L'école normale, institution napoléonienne pour les enfants de familles modestes mais méritants. Et donc, nous passions le concours d'entrée à l'école normale à ce moment-là. Je rends hommage, entre autres, à la qualité des professeurs que j'ai eus. Et par exemple, je pense à un qui est toujours des nôtres, et j'espère pour longtemps encore, c'est M. Fondacci, qui nous réunissait à la maison chez Roger Astolfi, un autre de mes amis d'enfance, pour nous préparer au concours d'entrée à l'école normale.
Une fois obtenu le concours, comment ça se passait ?
C'était direction Ajaccio, avec seconde, première terminale, tronc commun, et après deux années de formation professionnelle.
Qui se faisait à ?
Ajaccio toujours.
Ajaccio toujours. Donc, suite à cela, entrer dans l'univers professionnel.
J'oublie un détail important. C'est que pendant mes années d'école normale, il y a eu quand même mai 68.
D'accord.
Fin de première, mai 68, ce qui a été quand même un bouleversement. En particulier, expliquer le fonctionnement de l'école normale aujourd'hui, c'est... Je pense qu'il y a des enfants qui vont penser que je parle d'une époque, je ne sais pas, de la préhistoire ou presque, parce qu'il y avait une discipline de fer, une discipline quasiment conventuelle. Par exemple, nous, les filles, nous n'avions pas le droit de porter de pantalon. C'était rigoureusement interdit. Donc, nous changions dans les couloirs des immeubles avoisinants quand nous sortions de l'école normale le jeudi à l'époque ou en week-end. C'était tout à l'avenant. Et mai 68 a cassé tout ça.
Alors, est-ce qu'en Corse, parce qu'on a tous les images, en tout cas moi, par les reportages, en Corse, comment ça s'est vécu, mai 68 ?
Alors, en Corse, ça n'a rien eu de comparable. Enfin, moi, je parle...
Il n'y a pas eu de pavé.
Je parle d'Ajaccio. Non, il n'y a pas eu de pavé du tout. Il y avait, pour nous, ce qui nous concerne, c'est que l'école normale, d'une façon générale, était classée, parce que c'était là une réalité, était classée à gauche. Et il y avait certains lycées, je me souviens du lycée Fèche par exemple, où il y avait des groupuscules de droite et même d'extrême droite. Hein. Donc voilà, mais ça a été plutôt bon enfant, quoi. Je dirais, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu non, ça pas du tout.
Obtention du diplôme. Suite à cela. Découverte du monde professionnel.
Alors découverte, j'ai eu une carrière un peu atypique. Découverte. Alors je passe puisque le CAP qui venait sanctionner, je dirais la formation professionnelle, on le passait quand les tout premiers mois de notre activité. Donc je sors de l'école normale. À l'époque, quand on sortait de l'école normale, on allait là où on nous envoyait. Et moi, en l'occurrence, on m'envoie à l'OTI.
D'accord.
Voilà, le Nioul profond, où je me retrouve quand même avec des gens qui habitaient Calvi, Pep ou Aquavive, le grand-père de Jo Durex. Hein. Donc, des gens qui m'introduisent à l'OTI, Pep, et puis un autre Aquavive, un autre monsieur Aquavive, qui est le grand-père d'Arthur, de Marcel Aquavive, qui ont une propriété agricole en face du château du Prince Pierre. Mmh. Et donc, ces Aquavives là m'introduisent à l'OTI, mais je n'y reste pas toute l'année. Je passe mon CAP et je n'y reste pas toute l'année scolaire parce que j'avais demandé à l'époque à partir en formation à Draguignan. À Draguignan parce qu'il y avait une formation pour les classes de transition, ce qui permettait en même temps de se retrouver au collège.
Alors quand tu parles de classes de transition, c'était quoi ? C'était les classes de CM2 au fait ?
Les classes de transition c'était des classes de collège déjà, Après, je ne sais pas comment. Elles ont eu diverses appellations. C'était des élèves qui n'étaient, allez, qui n'avaient pas le niveau pour une sixième ordinaire.
Qu'on ne sanctionnait pas par un redoublement, voilà. Mais qu'on accompagnait peut-être un peu plus.
Exactement. Exactement. Et en fait, cette formation-là, malheureusement, je n'ai pas pu la mener à son terme parce que quand je suis revenu ici pour les vacances de Pâques, le lundi de Pâques, en balade pour aller à un pique-nique, j'étais passagère d'une voiture et on a eu un accident de voiture. Voilà, et je me suis retrouvée coincée ici à attendre la fin de l'année parce que j'avais le visage en particulier. Particulièrement, tu méfiais.
D'accord. Suite à cela,
une carrière banale où je me retrouve comme beaucoup de jeunes enseignants à l'époque encore en classe unique dans les villages. Ce qui a été pour moi une période bénie. J'ai été instite 4 ans à l'âme. Ça a été le bonheur, vraiment. Ce qui s'est passé à l'âme, c'est que entre l'année où je suis arrivée et l'année où je suis partie, c'est qu'il y avait eu une diminution très importante des élèves, parce que c'était une époque où il y avait eu un incendie d'une violence incroyable qui avait traversé Belgodère, qui s'était répandu sur les versants suivants. Et l'âme vivait beaucoup des oliviers et donc toute la vallée avait été complètement dévastée. Donc petit à petit, les familles quittaient l'âme pour aller s'installer à Île-Rousse, ou ailleurs, où en tout cas on pouvait trouver du travail.
Suite à cela, il y a une orientation vers les élèves
ça s'appelait à l'époque l'enseignement spécialisé. Pas les enfants mais l'enseignement spécialisé. Donc je fais ensuite Galeria et je pars à l'issue de cette année de classe à Galeria, je pars à Paris. Et c'est moi qui choisis comme centre de formation Paris. Parce que de toute façon, la formation ne pouvait se faire que sur le continent, je dirais. Et que je m'étais dit que, à tout prendre, autant prendre Paris plutôt que Marseille, Nice ou Bordeaux, ou je ne sais pas trop.
Alors, en tant qu'enfant de Calvi, la découverte de la vie parisienne.
Alors, la découverte de la vie parisienne, pour moi, elle s'est faite. Pour moi, la seule tragédie, je dirais, c'est que. Ça a été la perte de mon père juste une semaine avant le début de mon année scolaire. Ça a été évidemment un moment extrêmement difficile, totalement inattendu. Et puis donc je pars à Paris dans les conditions que vous imaginez, mais je me retrouve dans ce qui était l'école annexe de l'école normale de Paris. Donc l'école normale était boulevard des Batignolles. Je me retrouve dans une rue annexe. Grâce à des relations au réseau Corse, je trouve un appartement charmant à deux pas, vraiment à 5 minutes, enfin, ce qui à Paris est totalement inespéré de mon lieu de travail. Et je profite très largement de l'offre culturelle qui est faite à Paris et qu'encore aujourd'hui, même si les choses se sont améliorées, on connaît le centralisme jacobin. Français qui fait que la vie culturelle aussi, elle est quand même très centralisée sur Paris.
Est-ce que c'est les prémices finalement de ce qui va te porter plus tard, de l'orientation que tu prends au niveau culturel ? Est-ce que c'est peut-être là que se fait le déclic ?
Alors, je dirais qu'elle renforce quelque chose qui existait déjà. Je t'ai dit que j'avais commencé à lire, j'avais appris à lire avant même de rentrer au CP. Et pour moi, la lecture, déjà, ça a été une porte extraordinaire. Je crois que J'ai commencé à lire des albums à fin de maternelle, je dirais de grande section de maternelle, et je n'ai plus jamais arrêté de lire. Ça a été quelque chose. Ça m'a accompagné et ça m'accompagne encore aujourd'hui. Ensuite, à l'école normale, comme je te disais, il y avait une discipline de fer, mais il y avait un avantage que je reconnais volontiers, c'est que il était très important pour la directrice de l'école normale, Madame, comme nous l'appelions, il était très important pour elle que les enseignants et ses enseignantes, en l'occurrence, aient une culture générale la plus large possible.
Parce que après, on va aborder aussi ton engagement politique au niveau de Calvi. Est-ce que c'est là aussi que se forge quelque part dans le milieu un peu étudiantin parisien certaines idées, certaines.
Je dirais que tout est, oui, tout nourrit, je dirais, ton expérience. Mais il y a déjà ce socle qui est constitué à l'école normale, où par exemple, alors que il nous était évidemment rigoureusement interdit de sortir pour quoi que ce soit, mais les jeunesses musicales de France, on pouvait y aller, les conférences de la Dante Alighieri, on pouvait y aller, il y avait du théâtre à Ajaccio, on pouvait y aller, encadré évidemment, bon, ça n'en parlons même pas, mais le fait est qu'on pouvait y aller, et que quand tu sors de Calvi, du Calvi de l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein, je te parle quand même, on n'a pas encore atteint les années 70.
D'accord.
Donc, dans le Calvi de l'époque, la vie culturelle, elle est quand même très réduite. Tu as la vie culturelle que tu peux avoir dans ta famille, dans ton petit réseau, mais ça ne va guère plus.
On dépasse pas le cadre.
Voilà. Ben non, ça ne va guère plus loin que ça. Et là, tu te retrouves. Moi, je me souviens à l'école normale. C'est là, par exemple, au Jeunesse musicale de France, j'ai découvert un type qui s'appelait Jean-Pierre Rampal, dont j'ai découvert ensuite que c'était un flûtiste de renom et à juste titre, mais il a fallu que je prenne la Micheline pour aller à Ajaccio pour le découvrir. Et je dis toujours, ben, maintenant que j'ai l'engagement que tu dis, la culture, ça a ça d'extraordinaire, c'est que on n'en est jamais rassasié. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer à s'intéresser à la culture, à rentrer dans le monde de la culture, on a toujours envie d'en savoir plus. Ça donne une, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça donne une véritable ouverture d'esprit, ouverture qui te permet, bah, même si c'est pas complètement, moi je suis pas de la génération rap, il n'empêche que je m'y suis intéressée parce que ça pouvait intéresser les jeunes auxquels je m'adressais.
Du coup, quand tu rentres à Calvi, il y a ce besoin lors de la création du SVE, lieu de retransmettre un petit peu localement tout ce que tu as.
Il y a surtout, alors, comme, très honnêtement, au moment de la création du SVE, il faut souligner l'importance de Blaise Orsini. Il faut souligner son importance parce que, alors, autant j'avais l'intérêt dont je viens de te parler, j'avais cet intérêt et j'avais aussi l'idée, j'ai toujours eu. Peut-être ça grâce à mon grand-père maternel, toujours eu cette volonté de transmission, ça toujours. Mais par contre, je n'avais aucune expérience concrète dans le domaine et je pense que s'il n'y avait pas eu Blaise, je n'aurais jamais osé me lancer. Blaise, lui, avait à la fois cette passion de la culture, il avait cette formation qu'il avait acquis sur le terrain en participant aux Nuits d'Algiprat. On est à une époque, on est en 81, on est à l'époque Mitterrand. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Maurice Fleuret, qui était le directeur artistique des Nuits d'Algiprat et nommé directeur de la musique à Paris. Je veux dire, il y avait quand même tout un contexte
qui favorisait
les choses. Après, Blaise, il a été prémonitoire dans son discours parce qu'il nous a dit très vite, bon, écoutez, moi j'en ai un peu marre que le Riaquiche, tout se passe en dehors de Calvi. J'en ai d'autant plus marre que Calvi, ben, c'est une ville un peu schizophrène qui passe de saison touristique l'été à ville de garnison l'hiver et que ben, les Calvais, là au milieu, on ne sait pas trop où ils sont passés. Donc, il a voulu développer ce côté-là. Et son coup de génie, ça a été d'avoir repéré la poudrière qui était dans un état lamentable et qu'on nous l'ait attribué.
Alors, on parle de 81. Alors, je suis né en 81. Comment tu expliques qu'en 40 ans, il n'y a pas eu d'essoufflement au bout du compte, puisque vous êtes toujours là?
Oui.
Ça s'explique comment? Il y a vraiment, c'est du terrain, c'est...
Ben, c'est du terrain, si tu veux. Les premières années du Sveglio, là, je rends encore hommage à Blaise. Sa première préoccupation, ça a été l'ancrage sur le territoire. Donc, on a fait des tas de manifestations sur le marché. Les premières manifestations sur le marché,
Città dell'Infesta.
Quand on fait le premier Città dell'Infesta, il faut imaginer une chose, c'est qu'il y avait des Calvais qui ne connaissaient pas la citadelle.
Oui, ça paraît incroyable.
Ça paraît incroyable aujourd'hui. Il y avait des Calvais qui n'étaient jamais montés dans la citadelle. On a fait donc le marché, on a fait Caelu, on a fait le Paisolo. Donc on allait comme ça et on a beaucoup travaillé avec les associations de Balagne, de Calenzana, de Pigna, de Corba, etc. Et donc il y avait beaucoup d'échanges.
Parce qu'aujourd'hui, tu as les enfants. Des premiers élèves que vous avez eus.
Alors, j'ai les enfants. Si tu veux, ce qui est caractéristique, c'est que, bon, nous, on est toujours là, un peu vieux et décrépit, mais on est toujours là. On s'efforce d'y être. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des jeunes avec nous. Le point de repère, c'est l'aîné de mes nièces, qui a 37 ans aujourd'hui, Francesca. Elle, ses copines, j'ai encore des photos, on a des photos à la poudrière où elle venait régulièrement nous filer un coup de main. Ensuite, il y a eu une coupure assez brutale où attirer les jeunes vers la culture, ça a été compliqué.
Quelle période ?
Je dirais ces dernières années parce que je trouve que d'une façon générale, si on est arrivé à la situation qu'on dénonçait tout à l'heure, c'est-à-dire que la culture non essentielle, je veux dire, il a rien inventé Macron. Il savait qu'il pouvait le dire. Il savait qu'il pouvait le dire parce que ça fait 20 ou 30 ans même qu'on vit dans une société où on développe beaucoup, on est dans une société de libéralisme décomplexé, hein, on y va gaiement, et donc l'économique a pris le pas
sur l'humain, sur le
social et évidemment sur le culturel. Aujourd'hui, il vaut mieux dire qu'on a une Rolex qu'on a lu Dostoïevski. On est quand même dans ce.
On va y revenir plus tard parce que, enfin, dans quelques instants, est-ce que c'est pas aussi assez local ce genre de choses ou est-ce que c'est quand même assez général toi qui vas des fois sur le continent?
Je pense que c'est quand même assez général. Après chez nous c'est toujours la même chose. Nous toutes les modes, je dirais, on est souvent réfractaires pendant longtemps à ce qui vient de l'extérieur. On est de vrais insulaires. Et puis, quand ce qui vient de l'extérieur finit par s'introduire ici,
digérer,
on se le prend en pleine gueule et on y va on y va à fond. En plus, on est quand même des gens des gens du Sud où le paraître reste quelque chose d'important.
Dans le même moment, puisque vous faites 8 ans après, c'est pas très loin, est-ce que d'être dans ce milieu associatif, dans ce milieu culturel, du coup, tu participes à l'élection de, à la campagne municipale et donc à l'élection de François Zanotti en 88 suite à la démission de Xavier Colonne. Est-ce que c'est le cheminement logique, plus ou moins? Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que c'est toi qui vas au devant de...
Non, pas du tout. Je n'y pensais pas du tout, sincèrement. François Zanotti qui était mon voisin quand même à l'époque, puisqu'il avait son appartement à Cahiers, oui, que c'était un voisin très, très agréable que je connaissais. Et qui un jour, donc, il avait déjà été élu maire, puisqu'il avait été élu maire sur la fin de l'année 88. Il avait été élu avec François Galletti et Titi Pinelli, en remplacement de Xavier Colonna et de je ne sais plus quels conseillers municipaux qui étaient démissionnaires ou qui étaient décédés, je ne sais plus. Donc il se retrouve avec eux et puis il décide de se lancer dans la campagne des municipales qui suivaient. Et un jour, il me demande de venir le voir et il me fait cette proposition. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais sans doute prête. Et puis en plus, je ne sais pas si ça ressort dans mon discours, mais enfin moi pour moi le faire de la culture, c'est pas la culture apolitique. Je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Faire de la culture, c'est, pour moi en tout cas,
s'ouvrir aux autres,
que le maximum de gens puissent y accéder, que ça permette aux gens d'acquérir une vraie citoyenneté, les moyens de réfléchir, etc., etc. Donc pour moi, c'est clairement politique, quoi. C'est dirigé vers certains types de choix de vie, etc. Donc quand François Zanotti qui me fait cette proposition, Je dis oui, mais je fais partie des, entre guillemets, des sans grades, quoi, ouais. Je dirais. Hein. Je le dis parce que c'est comme ça, quoi. C'est pas... Et puis on est élus. Donc très bien. Et à la première réunion où on se retrouve à choisir un peu les domaines dans lesquels on va œuvrer les uns et les autres, quand il dit urbanisme, ben je me retrouve à lever le doigt. Et sincèrement, je sais pas pourquoi, parce que je n'ai aucune qualification dans le domaine, je n'ai aucun intérêt particulier, et je sais pas. Et je suis bien la seule à lever le
oui.
doigt. Je suis bien la seule et donc voilà comment je me retrouve. Alors, je pense que les premiers temps, s'il y a encore des fonctionnaires des Ponts et Chaussées de l'époque qui exercent.
Bon, bien aidé, lui il était X-Pont, X-Mine, il, oui. avait quand même un bagage
oui, oui.
extraordinaire.
Ah oui, lui oui, moi non. Et je pense qu'ils doivent avoir encore le souvenir cuisant du nombre de coups de téléphone que j'ai passé à droite et à gauche pour essayer de comprendre dans quoi je m'étais embarqué.
Il y a un mandat de 7 ans.
Oui, 89-95, oui.
Il y a un mandat de 7 ans. Et derrière, François prend la décision de ne pas repartir.
Il décide de ne pas repartir. Et c'est François Galletti, qui entre-temps avait été élu conseiller général, qui décide de mener la liste.
Et donc là, bon, et campagne un peu houleuse.
Pas plus houleuse. J'avais connu des campagnes antérieures plus houleuses que ça. Les campagnes précédentes, alors s'il y a de la nostalgie à avoir, les campagnes précédentes, je le reconnais. Alors, elles étaient parfois, Parfois, il y avait des retombées sur les rapports humains que je trouve complètement stupides, ça sincèrement. Mais par contre, elles avaient une qualité, c'est que
tout le monde s'intéressait à la
vie. Tout le monde s'intéressait. Il y avait du débat. Il y avait vraiment du débat. Je veux dire, même si on était issu d'une politique dite claniste ou clientéliste, il y avait réellement du débat dans la rue, dans les bistrots, enfin réellement. Aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Donc c'est pour ça que je te dis, j'avais connu des campagnes plus
peut-être aussi les réseaux sociaux avec la culture du buzz, avec le peut-être que c'est ça qui change aussi.
Peut-être, je ne sais pas.
Qui dénature le débat au profit de justement peut-être se montrer, soucier plus de l'image que du fond.
Il y a certainement de ça, et il y a aussi. Mais peut-être que ça s'exerce partout, en fait. Il y a une espèce d'auto-censure qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qui, du coup, bride le débat à l'évidence, quoi.
Oui, d'autant plus que toi, tu as connu une période où il y avait quand même une censure, où dire des choses, des fois, c'était vraiment quelque chose qui pouvait emmener des conséquences. Aujourd'hui, c'est un petit peu la population qui s'auto-censure de peur de vexer l'une ou l'autre des communautés qui pourraient être visées ou se sentir. C'est surtout ça, c'est se sentir visé peut-être.
C'est ça.
Ça nous amène à ton combat actuel, puisqu'en fait, tout s'imbrique finalement avec l'association de Léo Battesti, Mafiano et Taillé. Alors là, je vais pas vouloir te vexer. On a l'impression des fois en Corse, au vu de la situation, vous êtes avec votre bâton de pèlerin à prêcher à contre-courant et que c'est vraiment compliqué.
Ben, bien sûr que c'est compliqué. Enfin, moi, si tu veux, avant que Léo Battesti ne me contacte. J'avais eu une première expérience de ce type de combat parce que en 2013, il y avait un couple d'entrepreneurs de la région d'Evisa qui avait vu son entreprise complètement détruite par le feu, donc hangar, engin de chantier, etc. Et ils avaient porté plainte. Contre X, évidemment, mais ils avaient porté plainte, demandé. Ils avaient été soumis aux raquettes. Ils avaient porté plainte et ils avaient porté l'affaire sur la place publique. Et donc à partir de ce moment-là, un comité, je dirais, c'était spontanément créé autour d'eux, dont je faisais partie et. Et donc on a fait des réunions, on a porté là aussi déjà on a porté le fer. Après le problème, ce n'était pas un problème, tant mieux pour eux. Je dirais c'est que l'affaire était focalisée autour de personnes bien ciblées puisqu'elles avaient dénoncé ce qui leur arrivait et que évidemment au bout d'un certain nombre de mois et d'années elles n'avaient qu'une envie, c'était reprendre une vie normale et que donc notre action, l'action du comité autour d'eux s'est éteinte comme ça.
Parce que quelque part tout le monde, je te coupe, mais tout le monde s'accorde à dire que vous êtes dans le vrai, mais en fait j'ai pas l'impression que les gens vous suivent réellement, tandis qu'il faut quand même, en dehors des règlements de compte, des crimes de sang, de la voyoucratie, il y a quand même un bâtonnier qui est mort, enfin, je veux dire, dans d'autres régions ça n'arrive pas, il y a quand même un président de chambre de commerce qui a été assassiné.
Ben écoute, tu vois, j'ai ce rouleau là que j'avais dans mon sac, c'est le nombre d'homicides de toutes sortes qui ont été commis en Corse.
Parce que non seulement il y a le nombre, mais des fois c'est les entités qui tombent.
Oui.
Je veux dire, ça se passerait dans une autre région,
Oui.
Le taux d'élucidation d'affaires est quand même catastrophique en Corse.
Mais,
quand on sait qu'il y a quasiment un gendarme pour 10 habitants.
Le maire de Grosseto-Prougne, le maire de Sauvire, il y a le président de la chambre d'agriculture.
Président du parc régional.
Du parc régional, de la chambre de commerce, enfin je veux dire, bon. Deux enseignants.
Un entrepreneur, Vial.
Enfin bon.
On va pas faire l'énumération, mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est de se dire effectivement, en plus, il y a pas de suite.
Le dernier en date étant quand même Jean Letch, le haut fonctionnaire au conseil général, mort assassiné en 2014. On n'entend plus rien. Il y a effectivement un taux.
Alors est-ce que c'est la balinisation ou est-ce que c'est la peur?
Il y a peut-être un peu des deux. Après, il y a une analyse qui est la nôtre. Nous, on voudrait que soit reconnu dans la loi le délit mafieux qu'on peut caractériser par la violence, par une certaine organisation quand même. On s'en rend compte aujourd'hui, par une porosité entre la voyoucratie, le politique, les services de justice. Hein, on en a des exemples même récents, hein, que ce soit l'affaire du juge Cornu récemment qui est revenu devant le conseil de la magistrature, ou le directeur de la PJ en Corse, auquel on demande d'aller faire un tour ailleurs parce qu'il avait des relations sulfureuses ici. Je veux dire, on est quand même dans des situations assez particulières. Donc,
plus un rapport à l'État qui est quand même assez compliqué. Je veux dire, donc c'est vrai que déjà localement, la relation avec la police n'est pas au beau fixe.
Et la relation à la police n'est pas au beau fixe. Une relation compliquée au fait les gens trop souvent confondent dénonciation et délation. Je veux dire que entre aller dire à la police j'ai été victime de telle et telle exaction, ou dire à la police allez voir monsieur un tel parce qu'il fait des choses qui sont pas très claires, et de le faire avec l'intention de récupérer quelque chose, il y a quand même une marge. Or en Corse cette frontière là elle n'est que sémantique. Dans les faits, elle n'existe pas.
Mais en politique, c'est un peu pareil, parce que quand des gens vont au-delà d'un élu pour demander à faire valoir ses droits,
oui,
on dit ah voilà, t'es assujetti au clientélisme.
Complètement.
Tandis qu'en fait, c'est juste faire valoir ses droits au logement, faire valoir ses droits au travail, faire valoir. Mais dans le prisme insulaire, on a l'impression qu'il est monté à la mairie pour demander quelque chose et c'est bon. Donc il y a peut-être aussi un travail sur la mentalité à faire.
Et c'est d'autant plus curieux, je le dis toujours, que pour une région qui se réclame à corps et à cri d'Iwab ou d'Iabadria, quand on sait ce qu'était la Justicia Paolina,
oui,
nous on est très doux quand même, hein. On a déjà...
Alors, mais... très doux, parce qu'on va aborder les questions qui fâchent, très doux, mais du coup, il y a une certaine dangerosité dans vos propos, peut-être des fois un peu de peur, parce qu'il doit y avoir des menaces, mais en fait on s'aperçoit que même via les polémiques visant Léo Battesti, on essaye de décrédibiliser votre travail qui sur le fond est remarquable et à souligner.
Ben, Léo Battesti, c'est...
On critique son passé, on critique,
voilà,
certaines de ses actions. Ben, on n'a pas le droit au repentir, au fait.
Non, d'abord, on n'a pas le droit au repentir, effectivement. Et puis, bon, c'est quelqu'un, je pense, qui a toujours pris ses responsabilités politiques, etc. Je vais pas faire le panégyrique de Léo Battesti. Je ne suis pas là pour ça. Moi, ce qui m'a intéressé, ça a été qu'il ait initié cette démarche à laquelle j'étais déjà sensible. Ça m'a intéressé. Après, qu'il soit en butte aux critiques. Et qu'on cherche à chaque fois... Le problème chez nous, Et ça aussi, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça répond à notre vieux...
Bon, il y a le terreau fertile de l'économie.
Puis de l'invidia. Il y a... Bon, peut-être il y a de ça, mais chez nous, par exemple, faire une action bénévole, c'est entaché de soupçons. Mais qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, là, donc, on a soupçonné qu'il voulait se présenter aux élections. Enfin, moi, je suis convaincue que non. Et puis, s'il se présente aux élections, il se présente tout seul. Il n'a pas besoin de nous derrière, hein. D'autant qu'aucun d'entre nous ne sollicite quoi que ce soit dans le domaine. Et ensuite, il y a eu quand même une espèce de dirais de faits qui se sont déroulés au même moment, qui étaient quand même curieux. Il y a une lettre anonyme qui repose sur rien, pas grand-chose, au point que personne n'en fait rien, qui part au mois de janvier. On ne la ressort en septembre que lorsque Pascal Garbarini, l'avocat de la bande du Petit Bar, tient des propos...
Limite.
Pour rester poli. Qui franchit même un peu la limite, quand même. Hein. Et là, on fait dire au procureur que finalement, on va faire, 9 mois après, on va faire une enquête. Une enquête, en plus, que Léo Battesti souhaite. Mmh. Souhaite, parce que ça permettrait d'éclaircir les choses. Et quand on met quand on essaye de le mettre en difficulté sur la Ligue d'échecs, sur la Ligue d'échecs, on prend quand même une belle revanche. Enfin, il prend une belle revanche parce qu'il y a un rapport du ministère des Sports qui met en cause complètement la gestion du président actuel.
Parce que, encore dans les questions qui fâchent, on a l'impression que dénoncer c'est bien, mais au fait que l'accompagnement c'est bien, mais est-ce que le mal il n'est pas plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas enraciné sur un fond de problèmes économiques qui sont assez importants en Corse, c'est-à-dire qu'une personne sur 5 est en dessous du seuil de pauvreté, je disais déjà la semaine dernière, je me répète, j'ai tendance à me répéter souvent sur ce sujet-là. Est-ce que c'est pas ça véritablement le fond des choses, c'est-à-dire que c'est un terreau fertile pour permettre à certaines personnes d'avoir une main mise et la facilité de prendre des gens qui sont vraiment dans la difficulté.
Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça, François. D'abord parce qu'on se rend compte, que ce soit dans la bande de la Brise de Mer, que ce soit actuellement dans la bande du Petit Bar, c'est qu'il y a des gens parmi eux qui ont pignon sur rue, hein. C'est pas forcément des enfants de Loupine ou des Cannes ou des Salines, hein, qui ont été recrutés. Ça c'est le premier point. Ensuite, je pense que s'il n'y avait pas la porosité et l'impunité que nous dénonçons souvent, je pense que les choses iraient beaucoup mieux si l'État faisait son travail. Je veux dire, pendant des années, quand il y a eu le FLNC, on nous a opposé l'État de droit. L'État de droit, allez-y, exercez-le. On demande que ça. Mais on ne voit pas.
Oui, puisqu'ils ont leur part de responsabilité, ne serait-ce qu'en fonction des résultats des enquêtes qui sont au-delà du catastrophique.
Qui sont au-delà du catastrophique, qui sont au point mort. Et quand on faisait, quand on a eu sur la période où on a eu la possibilité de faire des réunions publiques, la plupart du temps, on est tombé sur des victimes. Alors des victimes soit d'exactions, soit des victimes qui étaient les familles de gens qui avaient été assassinés, qui n'avaient aucune réponse et qui étaient...
Double peine,
d'autant que, comme il n'y avait pas de réponse, dans la société, on se disait que finalement, on se demande bien ce qu'il a pu faire.
On va conclure sur les questions flash. Question flash, c'est si Calvi était. Si Calvi était un trait de caractère.
Si Calvi était un trait de caractère, moi j'aurais dit volontiers l'ouverture.
si Calvi était une qualité.
Alors, je ne sais pas si ça peut s'appeler une qualité, mais une dose de désinvolture qu'on oublie aujourd'hui.
Un défaut ?
Ben le revers de ça, une légèreté.
Un animal ?
Un animal. Un animal.
Un paresseux ? Je
sais pas. Non, pas un paresseux, parce que ce serait une mauvaise image qui ne correspondrait pas à une réalité. J'aurais plutôt tendance à penser à une créature type sirène ou voilà quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu poétique et tourné vers la mer.
Est-ce que tu as un héros de fiction et dans la vie réelle qui te suit depuis
un héros ton de fiction, c'est bah, alors pas depuis mon enfance, mais c'est depuis mon adolescence, en tout cas, c'est Zorba le grec, de Kassantzakis.
Et dans la vie réelle ?
Et dans la vie réelle, c'est il y a un type que j'ai découvert il y a quelques années, que j'adore, qui est mort il y a quelques jours. C'est Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin. C'est un destin extraordinaire.
Qu'est-ce que tu détestes le plus chez l'homme ?
Le manque de franchise.
Une phobie ?
Les rats.
Un livre de chevet ?
Un livre de chevet,
que tu as relu plusieurs fois.
Si c'est un homme de Primo Levi.
Un objet fétiche ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conserves ?
La bague que je porte depuis.
Est-ce que tu es plutôt téléphone ou rendez-vous ?
Je suis devenu plutôt téléphone.
SMS ou mail ? Alors moi, j'aurais tendance...
Mail.
Mail, oui. Chien ou chat ?
Chat.
Jour ou nuit ?
Nuit.
Rêve ou réalité ?
Réalité utopique.
Et là, je te taquine. Nuit blanche ou nuit bleue ?
Ça a été longtemps de nuit blanche. Très longtemps de nuit blanche.
Action ou réaction ?
Action.
Passé ou futur ?
Futur.
Doumé, je te remercie d'être venu dans cette émission qui a duré, pour le coup, beaucoup plus longtemps que prévu. Mais c'était tellement intéressant que, du coup, j'ai pas regardé la montre. Je voulais juste profiter de cette fin d'émission pour dire qu'il y a l'association Nos Amis à Quatre Pattes qui a des difficultés en ce moment avec les intempéries et ils ont des problèmes. Alors si, effectivement, je sais que les temps sont durs, il y a, je vais dire un petit peu ce qu'on m'a passé. Je remonte vite fait. Si les gens souhaitent donner un coup de pouce pour le financement des travaux, ils peuvent le faire à travers des dons, même si la période est compliquée, par courrier à Nos Amis à Quatre Pattes, zone Canton, 20260 Calvi. Un reçu est systématiquement envoyé. Les gens peuvent aussi offrir des jouets pour les chiens, de préférence solides, ou sinon des longes et des laisses ou des harnais taille M, L, XL. Car tous ces articles sont onéreux et les gens peuvent bien sûr aller sur place, filer un coup de main manuel, amener des croquettes, amener... voilà. Donc n'hésitez pas parce que les temps sont durs pour les associations sportives, mais aussi pour les associations concernant les animaux. Il y a Fait l'Impossible aussi, donc qui fait un gros travail sur les chats. Donc si les gens peuvent donner un petit coup de pouce à ces associations qui tout au long de l'année courent derrière... les fonds, les sous, c'est pas mal de leur donner un petit coup de main en ces périodes de fête. Je vous dis à la semaine prochaine et merci pour tout.